La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai intitulée aujourd'hui les dimanches, les fêtes et les frairies jadis en basse marche. Pour les textes, nous avons utilisé les ouvrages suivants. La société traditionnelle en Limousin et basse marche d'Albert Gourceau. La monographie de la commune de Thiat de messieurs Bastien et Mathieu. Bellac, 10 siècles d'histoire de François Massicot. Bergère, éternelle bergère de Louis Pignot. Printemps de Paul Lavergne. Le nid d'épervier, un roman de Charles Sylvestre. Et une enfance de Jules Marouzeau.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
En nous appuyant sur les précieuses études d'Albert Gourceau, nous allons d'abord nous intéresser à la tradition du dimanche, qui bien sûr n'était pas seulement un jour comme les autres, mais n'était même pas un jour. Au lieu de s'éveiller dans le grincement des charrettes, des aboiements des chiens et des cris des enfants conduisant leurs bêtes au pâturage, le village renaissait à la vie dans une atmosphère de détente heureuse et de gaieté. On s'interpellait joyeusement tout en se livrant aux considérations habituelles sur le temps probable. Et Albert Gourceau d'étudier l'activité des hommes ce dimanche matin, il s'agissait avant tout de se raser. Et celle des femmes qui se préparaient et préparaient leurs enfants au départ pour la messe. Il examine ensuite les activités de l'après-midi, le bal pour les jeunes, la pêche pour les adultes, ou tout simplement les bavardages, les babillages des plus âgés. Nous allons d'abord traiter ces activités ordinaires, puis nous nous intéresserons aux fêtes et aux frairies. Le dimanche matin, la grande activité des hommes de nos hameaux, c'est donc l'opération du rasage. Écoutons Albert Gourceau. Dans la plupart des maisons, on voyait derrière chaque fenêtre les hommes barbouillés de mousse blanche se raser tranquillement devant un vieux miroir suspendu à la poignée de l'espagnolette. Chacun se servait du rasoir ordinaire, le sabre, choisi avec soin un jour de foire sur le banc d'un coutelier ambulant. Comme cuir à repasser, on se servait d'une vieille fouille ou courroie de joue hors d'usage. Enfin, on essuyait la lame du rasoir soit sur une feuille de chou, ce qui était le plus pratique, soit sur une feuille de lierre en hiver. Et il ajoute, c'était un voisin qui s'improvisait perruquier. À grands coups de ciseaux, il dégageait nuques et oreilles, puis raccourcissait les touffes épaisses qui poussaient au sommet des crânes. Le travail n'était pas toujours parfait, mais il évitait un déplacement au bourg et la coupe ne coûtait que 2 sous au lieu de 5. Pour ma part, j'ai le souvenir d'un oncle qui avait un peu appris le métier de coiffeur lorsqu'il fut prisonnier en Allemagne. Il avait acquis ciseaux et rasoirs et surtout une tondeuse. En été, dans le hameau de Clerbise, commune de Vareille, le dimanche matin, il faisait aligner les hommes sous le tilleul et coupait à la file. Il se faisait payer en paquets de gris, je veux dire que la coupe coûtait un paquet de tabac gris.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Intéressons-nous maintenant à l'activité des ménagères, le dimanche matin, jadis, dans nos campagnes. Pendant que le mari se rasait, la femme préparait ses drôles, garçons et filles, pour la messe, où d'ailleurs, beaucoup d'entre elles les y accompagnaient. Et l'auteur de nous expliquer que ce jour-là, les femmes prenaient beaucoup de temps à bien disposer leurs cheveux et à bien ajuster leurs coiffes. D'ailleurs, voici les paroles d'une chanson traditionnelle. Jeanneton, mamie, hâtons le pas. La messe est sonnée, nous n'y serons pas. Ah, qu'elle soit sonnée, qu'elle ne le soit pas, j'ai perdu ma coiffe, je veux la chercher. En effet, ce matin-là, il était inconcevable de se rendre au bourg et, de plus, à l'église, sans sa coiffe. Pour les femmes, ce matin-là, c'était aussi la longue et pénible préparation du repas du dimanche, qui est, surtout si ce dimanche est un jour de fête locale, un repas amélioré avec des pâtés de toutes sortes, de la poule souvent cuite dans une sauce blonde au lard, et parfois du porc ou du mouton.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Que fait-on après le repas pendant l'après-midi du dimanche ? On se retrouvait, garçons et filles, ensemble au lieu de réunion habituelle, sur le coup d'air ou à un grand carrefour pour organiser les grands jeux. L'hiver, on allait glisser à la serve ou dans un fond de pré. D'autres fois, quand le jeu ne nous disait rien, on allait, par deux ou trois, voir nos aînés jouer aux quilles ou aux bouchons. En effet, voici ce qu'on peut lire dans la monographie de la commune de Thiat. Le repos dominical est observé par tout le monde. Les distractions sont le jeu de quilles et les cartes. La manille est le jeu le plus connu, même des ruraux. La pêche est largement pratiquée. Les aînés, précise Albert Gourceau, en effet, allaient à la pêche ou à la chasse, jouaient aux cartes en vidant un ou deux litres de vin. D'autres occupaient leur temps à faire le bâton à la main en compagnie des voisins, le tour des champs. Ils examinaient ensemble les cultures, vérifiaient les dégâts commis par les dernières intempéries et supputaient les promesses de la récolte future. Quant aux femmes, celles qui d'habitude ne sortaient jamais, elles profitaient du calme de ces journées de dimanche pour faire un tour dans le village et même parfois pour se faire inviter. Ah ben vous n'allez pas passer comme ça, rentrez donc vous asseoir. Ah, un tout petit moment, j'ai tant de travail à faire à la maison. Eh bien, n'y pensez pas. Vous savez bien que c'est dimanche. On s'asseyait et on bavardait. En fin d'après-midi et le soir, c'était dans un bourg proche, le bal, où toute la jeunesse du voisinage se retrouvait pour danser et pour flirter. Cependant, peut-on lire dans la monographie de Thiat, la danse, au vrai sens du mot, est assez peu en honneur, car il y a fort peu de bals publics au bourg, et les bals d'éveillés sont plutôt des sauteries. Aussi, la jeunesse ne sait-elle que polquer, mazurquer, faire une sorte de quadrille, le tout sans art et sans grâce. Les distractions des dimanches et des fêtes sont plus variées dans les gros bourgs et les petites villes comme Magnac-Laval, Le Dorat ou Bellac. Voici ce qu'écrit François Massicot à propos de Bellac. La période de l'entre-deux-guerres reste marquée par une atmosphère de légèreté aimable. C'est l'époque des grands bals du 14 juillet et des manifestations d'enthousiasme. Dans l'ambiance de la fête arabe de 1905, de la cavalcade de juin 1912 avec ses 23 chars, ses cavaliers, ses gymnases, ses grosses têtes et ses bicyclettes fleuries, la fête de Jeanne d'Arc et la fête des fleurs de 1921 marquent un renouveau à ces réjouissances locales. Puis ce seront de nouvelles cavalcades, des meetings aériens, les premiers cosaques djigites, etc., etc. Pour ce genre de manifestation, Bellac a la chance de pouvoir utiliser le stade de Beauchamp. Et les 4 kilomètres qui le séparent de la ville ne font peur à personne. Les soirées théâtre, les concours de gymnastique ou de clique sont fréquents. Il est vrai que le patronage, se trouve en pleine expansion. L'harmonie, les enfants de Bellac donnent de nombreux concerts très suivis sur le kiosque de la promenade. Il n'est pas exagéré de dire que chaque mois voit une nouvelle manifestation. «
petites et grandes histoires de la basse marche.
Avec ce texte, nous quittons l'occupation traditionnelle du dimanche au hameau ou au village pour nous intéresser un peu plus à la fête, à la frairie. Et pour la fête, pour la frairie, on se fait belle et beau de la tête aux pieds. Écoutons Louis Peignot dans Bergère, éternelle bergère. Françoise aimait à se faire belle au jour de fête. Pour la frairie de Saint-Pardoux, elle étrenna une belle robe en serge bleu. La jupe, légèrement drapée à la taille et ourlée dans le bas d'une ganse noire, tombait longue sur de fines bottines à boutons. Elle avait pensé aussi à la toilette de son mari et sortit le costume qu'il ne revêtait qu'au jour de fête. Sur le lit, s'étalait la chemise blanche au plastron empesé à côté du col de celluloïde haut et raide. La plupart de ses frairies débutaient le matin par des cérémonies religieuses, une messe, une procession. C'est le cas à Saint-Pardoux, à Sainte-Anne de Mézières-sur-Issoire ou à Bonnefond de Berneuil. Ensuite, c'était la fête foraine qui, dans la soirée, était suivie par le bal.
Ma commère, quand je danse, mon cotillon va-t-il bien?
Ma commère, quand je danse, mon cotillon va-t-il bien?
Il va de ci, il va de là, il va fort bien, ma commère. Il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va.
Il va de ci, il va de là, il va fort bien.
Le premier qui s'y avance, c'est le fils d'un avocat.
Le premier qui s'y avance, c'est le fils d'un avocat.
Il va de ci, il va de là, il va fort bien au Macomère. Il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va.
Il va de ci, il va de là.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous terminerons par le bal. Intéressons-nous d'abord à la fête elle-même, à la frairie. Et c'est Albert Gourceau qui nous dresse le tableau des jeux et attractions de ces frairies. On trouve très souvent, et bien avant la guerre de 1914, une course cycliste. Une course de 2 ou 3 heures sur 50 ou 60 kilomètres qui se disputait entre jeunes gens de la localité et des localités voisines. On trouve la plupart du temps le jeu du mât de cocagne, le jeu de la cruche. Entre deux perches solidement fichées dans le sol, on tendait une corde à laquelle était suspendue une cruche pleine d'eau. Sous cette cruche, on amenait un concurrent dont on avait, au préalable, bandé les yeux. On le faisait pivoter plusieurs fois sur lui-même pour le désorienter et on lui remettait un gourdin avec lequel il devait briser la cruche. Souvent, il frappait dans le vide et l'assistance le huait. On essayait de l'orienter sous la cruche, il frappait et recevait une douche plus ou moins abondante. Il y a aussi le jeu de la course à l'œuf. Chaque coureur tenait entre ses dents une cuillère dans laquelle était placé un œuf. Le gagnant était le premier arrivé au bout d'une centaine de mètres avec son œuf entier. Le jeu de la course sans sac. Le jeu de la course aux grenouilles. Il s'agissait de transporter des grenouilles dans une brouette. Et bien sûr, les grenouilles sautaient hors de la brouette. Il fallait alors s'arrêter, courir après elles, les rattraper, les reposer dans la brouette et repartir. Il y a aussi le jeu de la course aux ânes, et on sait que rien n'est aussi têtu qu'un âne. Il y a les concours de grimaces et le jeu de la poêle. Il s'agissait de retirer une pièce de monnaie collée au dos d'une poêle. Celle-ci était enduite de cirage noir et accrochée à un fil. Pour retirer la pièce, il était interdit de se servir de ses mains, seulement de son nez, de sa bouche et de ses dents. Vous imaginez dans quel état étaient les visages barbouillés de suie et de cirage.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Avec Paul Lavergne dans Printemps, nous allons nous transporter maintenant à la frairie de Sainte-Anne, à Mézières-sur-Issoire. Viens tirer à la loterie, alors nous verrons si tu as de la chance. Ça te grise un peu, hein, les chevaux de bois. Les roues sont chargées de vaisselle coloriée. Un peu remise de son émoi, Rosalie admire le ventre des pots à cidre rehaussés de fleurs, le décor jaune ou bleu des vers à pied qui portent, en lettres incrustées, souvenirs de la fête. Il y a des bols, des vases bariolés, des bocaux de bonbons rayés aux couleurs de salamandre, des paquets de biscuits si secs que lorsqu'on les mange, ils tarissent votre salive. Il y a enfin les nougats au papier d'argent et les berlingots multicolores que l'on gagne par deux ou par trois à la grande roue crépitante. Rosalie joue à la vaisselle et sa chance veut qu'elle gagne un verre, un bol, un paquet de biscuits. Elle désirerait encore un de ces pichets aux couleurs violentes. Son image qu'elle aperçoit nette et mille fois reflétée dans les glaces à facettes l'excite et l'encourage. Sa main tourne la roue, et c'est le sort qui décide. Mais Rosalie est sûre de la destinée. Elle gagne sans discontinuer. « Il faut nous arrêter, » dit le père. « La mère se fâcherait, et puis nous ne saurions pas où tout mettre. » C'est maintenant Charles Sylvestre qui nous parle de toutes les attractions des marchands forains, les manèges, les chevaux de bois, dont le nid d'épervier. Les gens venaient sur le seuil et s'en allaient vers la place. Le manège de chevaux et de cochons de bois commençait à tourner, à moudre sa musique toute crue, qui me faisait penser à une pomme verte où j'aurais planté les dents. Il était assailli par des filles et des garçons qui se précipitaient en admirant les dorures, les velours, les tiges torses, les volants de toile peinte qui flottaient au vent. Pour eux, des automates battaient roide de la mesure, frappaient le chapeau chinois, et parfois, j'apercevais le dos râpé, les côtes saillantes d'un cheval qui menait, comme une ombre misérable, la gigantesque toupie de plaisir. Les coiffes blanches voltigeaient, les cris aigus des filles charmées par un chaud vertige perçaient la rude fanfare, le cliquetis des notes qui s'éparpillaient et nous battaient la figure. Dans l'unique rue de Chambereau, il y avait des petites baraques où l'on vendait des berlingots qui laissaient un peu de couleur à la bouche. Non loin se dressaient en plein vent l'estrade de l'arracheur de dents et le kiosque de la cartomancienne. Léonore voulut connaître son avenir, elle en eut pour 10 sous. Ce qui m'attirait davantage, c'était les tréteaux où dansaient des ours au son d'un grand tambourin à la lueur des yeux du dompteur. Je voyais des paillasses qui échangeaient des claques et des cris, des chapeaux et des œufs de plâtre. Léonore essaya de passer au cou de bouteilles habillées d'argent des anneaux de bois, en vain. Un montreur de singes éveillait les gaudrioles à côté d'une baraque de tir, où des hobereaux en bottes jaunes favorisent au vent casser des œufs. La marchande d'oubli faisait battre sa crécelle sur la caisse de tôle peinturlurée. Léonore acheta quelques cornets croustillants qu'elle partagea avec moi. Elle s'achemina vers la grande salle d'auberge, arrangée en salle de danse. Plus de 300 couples y pouvaient tourner à l'aise.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Comme nous l'indique Charles Sylvestre, c'est maintenant l'heure du bal dans la salle d'auberge transformée en salle de danse. Il était difficile de s'en approcher, tant les abords grouillaient de peuple. Léonore me fraya un chemin avec ses coudes et ses genoux. Elle se glissa dans la salle et deux personnes assises sur les bancs de bois qui longeaient les murs cédèrent leur place. Le plafond était tout entier décoré de guirlandes en papier de couleur qui palpitaient au souffle des danseurs tourbillonnants. Les musiciens se relayaient. C'étaient de forts garçons qui gonflaient à plein poumon leurs cornemuses ou chabrettes. Leurs joues luisaient comme des pommes dans leur peau. Ils s'évertuaient. Toute leur personne semblait gonflée, même leurs blouses à gros plis. Les grands chapeaux ronds des danseurs tournaient avec les coiffes blanches des danseuses dont les longues jupes flottaient dans un nuage de poussière et de parfums rances. Des galants tenaient un mouchoir à la main pour ne pas salir les jolis corsages de leurs partenaires. Les trilles de la cornemuse et ses cris de chèvre fouettaient dur la valse à trois temps. À la pause, quelqu'un ramassait les sous et le patron venait arroser le plancher. Bientôt, un ménétrier joua de la vielle et se mit à râper une polka. C'était un ronflement sonore, un jasement d'insectes obstinés. Je voyais les têtes qui sautillaient, à qui mieux mieux. En Creuse aussi, la fête se termine par un bal. Écoutons Gilles Marouzeau, l'écrivain de Fleura, dans Une enfance. Bientôt, la petite salle était si pleine qu'il fallait tenir la porte ouverte. Le long des murs couraient des banquettes étroites. Dans un coin étaient entassées les tables. Celle du dessus laissait entre ses quatre pieds une cage sombre que je prenais pour observatoire. Au plus lointain de mon enfance, le musicien était un tout petit vieux qui jouait de la musette. Il pressait sous le coude gauche son sac de cuir revêtu d'oripeau et pour le regonfler, prenait de temps en temps entre les lèvres le bec de l'instrument dodelinant de la tête et les yeux fermés. Ensuite, un autre vint qui jouait de la vielle. La main droite tournait par saccade la manivelle tandis que la main gauche courait sur les touches du coffre d'où sortait une musique aigrelette. Le progrès amena ensuite une clarinette, puis un violon. Enfin, un cornet à piston, et ce fut, disait-on, tout comme à la ville. Assises sur les bancs autour de la salle, les mères gardaient sur leurs genoux les châles des danseuses. Les filles, cheveux hermétiquement enfermés dans des bonnets ronds à fond brodé, taille plate serrée dans de larges ceintures de soie claire, sautaient et viraient tout d'une pièce à la volonté des danseurs. Chacune avait dans le dos piqué par quatre épingles un grand mouchoir où le rustique cavalier, pour préserver la robe chère, posait sa main terreuse. On dansait la polka et la polka piquée et la sautiche et la valse et la mazurka. Toutes ces petites danses se logeant entre les figures du quadrille que le musicien annonçait d'une voix perçante « Chaîne anglaise, en avant, quatre !» À l'avant, quatre, la file des jeunes gens s'ébranlait, bondissait, lançant les pieds vers le plafond bas, entourant les danseuses quasi immobiles d'une gesticulation frénétique et poussant des « ifoufous » suraigus. Cela s'appelait « huffer » et c'était l'horreur de ma grand-mère qui, à chaque huffade, ne manquait pas de s'écrier « Oh Dieu là là, faut-y donc !» À la dernière figure du quadrille, on quêtait dans une casquette. Chaque garçon devait au musicien 2 sous par quadrille complet. Le musicien se commandait une chopine de vin rouge qu'il posait debout à ses pieds et à chaque coup du talon qui battait la mesure, le verre renversé sur le goulot tintait d'une note argentine.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Avec Louis Peignot, transportons-nous quelques années plus tard au bal de la fête de Saint-Pardoux. Après les jeux de la fête foraine venaient les joies plus délicates et plus troublantes de la danse. Dans toutes les auberges, on dansait, là au son des violons, ailleurs de l'accordéon. Des bals restaient presque vides alors qu'on s'écrasait dans d'autres où des musiciens renommés tenaient l'orchestre. Serrées les unes contre les autres, les mères faisaient tapisserie sur les bancs tout autour de la salle, suivant de l'œil les couples qui tourbillonnaient. Les lampes à abat-jour pendues aux solives éclairaient tout juste le vaste rectangle du bal qui par instant se vidait de ses danseurs. Quand les musiciens attaquaient une polka, une scottiche, la chèvre bure ou la jasse, ou la fille de la meunière qui a perdu sa jarretière, alors c'était une nuée des couples dans la salle. On ne dansait pas, on s'écrasait les pieds, on se bousculait dans un nuage de fumée bleue, tandis que les murs ruisselaient de sueur autant que les danseurs. Mais quand venaient la mazurka et la valse brune des chevaliers de la lune, alors la salle respirait. Une dizaine de couples à peine osaient affronter les regards des rangées de spectatrices dont les langues ne chômaient pas. Les bons valseurs étaient connus, on se pressait au premier rang pour les voir tourner. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que j'ai intitulée aujourd'hui les dimanches, les fêtes et les frairies jadis en Basse Marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie d'Albert Gourceau, de messieurs Bastien et Mathieu, de François Massicot, de Louis Peignot, de Paul Laverne, de Charles Sylvestre et de Jules Marouzeau. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel aux compositeurs Nino Rota et Claude Gervaise, à la musique à kiosque de Granville, au groupe Le Grand Rouge, Maluzerne, aux musiques des grands bals trad de Vialfre et à la valse brune que nous interprète en ce moment Georges Villard. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.